Bonjour Marcel.
Bonjour, comment allez-vous?
Ça va bien, vous?
Ben, ça va très bien, merci.
Êtes-vous allé voter?
Pas encore.
Ah bon, c'est parce qu'on fait un petit sondage aujourd'hui, puis là vous êtes le premier, je pense, à ne pas avoir encore voté.
Ben justement, comme tout le monde le fait d'avance maintenant, j'ai l'impression qu'il n'y aura personne le jour du vote.
Ah, vous nous direz ça la semaine prochaine. Alors, on va parler d'élections avec vous, d'élections fédérales. Mais
oui, pour se mettre dans l'ambiance.
Bien, on va se mettre dans l'ambiance et on va se reporter en 1896, où il y a eu quand même une élection dont les résultats nous ont fait plaisir. Je dirais ça comme ça. Alors, on vous écoute, Marcel.
Bien, c'est une élection qui est très importante dans l'histoire canadienne que celle de 1896, et c'est un bon moment pour s'en rappeler et pour en parler. C'est là qu'a réellement débuté le partage du pouvoir entre les libéraux et les conservateurs, un partage qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Et c'est l'élection qui a donné l'envie, je dirais presque la permission aux Canadiens français de voter pour le Parti libéral, une envie qui demeure, même si elle s'est amenuisée depuis l'arrivée du Bloc québécois. 1867, l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique, création du Canada confédéral dans lequel on vit toujours, le Parti conservateur va dominer la vie politique pendant les trois premières décennies de l'existence du pays, grâce notamment à John A. Macdonald, père de la Confédération, figure aujourd'hui controversée que Pierre Poilievre aimerait ramener au goût du jour, incidemment. Il remporte 6 des 7 premières élections générales tenues au Canada. Il est réélu en mars 1891, mais décède quelques mois plus tard. Lui succède tour à tour John Abbott, John Thompson, Mackenzie Bowell et Charles Tupper. C'est ce dernier qui va conduire les conservateurs à l'élection. En avril 1896, le Parlement est dissous et les Canadiens sont appelés aux urnes le 23 juin. C'est donc une longue campagne électorale de 2 mois qui s'amorce. Si celle qu'on est en train de vivre en ce moment vous a semblé longue, rassurez-vous, elle a duré 36 jours, le minimum prévu par la loi électorale. Elle était beaucoup plus courte que celle de 1896. Et j'ai bien dit que les Canadiens étaient appelés aux urnes. Nul besoin de féminiser ici. Seuls les hommes avaient le droit de voter à l'époque. Et encore
exactement.
Là, pas, et encore là, pas tous les hommes, c'est bon de le préciser. L'âge minimum du vote était de 21 ans. Ça n'est passé à 18 qu'en 1970. Et on pratiquait à ce moment-là une forme de suffrage censitaire. N'étaient éligibles à voter que les hommes qui étaient propriétaires d'une maison ou d'une terre d'une certaine valeur, les locataires qui versaient un loyer d'un montant assez élevé, ou les hommes qui dépassaient un certain seuil de revenus annuels. Si vous vous rappelez, il y a 2 semaines, je vous parlais des efforts qu'on faisait dans le sud des États-Unis pour empêcher les pauvres, les femmes et les personnes racisées de voter. Bien, on faisait la même chose au Canada à ce moment-là. On estime qu'environ la moitié des hommes qui auraient dû être éligibles avaient le droit de vote, donc la moitié de la moitié du pays. Un Parlement, ça devait avoir des airs de country club.
La démocratie, en tout cas, elle pouvait repasser, comme on dit.
Oui, c'est ça le concept. D'ailleurs, quelqu'un comme John A. Macdonald, justement, combattait ardemment le principe du suffrage universel. Pour lui, c'était une très mauvaise chose. Il n'a pas vu ça de son vivant. Il en était probablement fort heureux. Maintenant, comment fait-on une campagne électorale sans vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, sans clip audio pour les nouvelles de 10 heures, même sans la possibilité de faire de la publicité à la radio? Bien, on peut faire comme le Parti libéral au tout premier jour de la campagne et organiser de grandes démonstrations populaires. On va réaliser vraiment un coup de force à Montréal le 24 avril. Les clubs libéraux de tous les quartiers de la métropole, de même que les étudiants libéraux de l'Université Laval à Montréal, la future Université de Montréal, vont faire une grande marche au flambeau dans les rues, accompagnés de fanfares. De là, ils rejoignent le cortège d'honneur qui était formé du chef de l'opposition officielle et chef libéral Wilfrid Laurier, entouré de plusieurs dizaines de ses députés et candidats qui poursuivent le défilé jusqu'au Parc Summer, grand parc d'amusement de la rue Notre-Dame, où se tient une assemblée publique devant entre 12 000 et 15 000 personnes, selon les estimations des journaux.
Marcel, excusez-moi, vous avez parlé de clubs libéraux. Qu'est-ce que c'est que les clubs libéraux?
Bon, c'est un peu l'équivalent, on pourrait comparer ça là, dans le monde moderne avec les associations libérales de comté.
Ah, si vous voulez. OK.
C'était tous les partisans libéraux qui se réunissaient. Et ce jour-là, vraiment, on est parti de tous les quartiers. On a convergé au Champ de Mars après ce défilé au flambeau. Ça devait être quelque chose de très spectaculaire, surtout à cette époque-là. Et Donc, voilà, l'orateur vedette, évidemment, c'était Wilfrid Laurier. Je ne vous avais pas parlé de lui encore. C'est une figure très importante de la vie politique québécoise. Natif de Saint-Lin, aujourd'hui Saint-Lin-Laurentide, dans la région de la Naudière, avocat, journaliste, puis homme politique, il prend la tête des libéraux fédéraux en 1887. Le parti était l'héritier spirituel des Rouges du Canada français, qui étaient les radicaux, les anticléricaux, toujours en but avec l'Église catholique. Laurier va opérer un recentrage du parti et se présente comme un libéral dans la tradition britannique de la chose, donc un libéralisme beaucoup plus modéré que ce à quoi on avait été habitué. Ça, combiné au fait qu'on avait un petit gars de chez nous à la tête d'un grand parti pour la première fois depuis la Confédération, il va faire du Québec une terre libérale. La province qui n'avait voté pour le PLC qu'une fois depuis la Confédération va donner des majorités de sièges, souvent très importantes, aux libéraux lors de chacune des 7 élections de Laurier comme chef. Mais j'en reviens à ma question. Comment faisait-on des campagnes électorales? Bon, on les faisait à coups de discours, d'assemblées populaires, d'assemblées contradictoires. Il y avait peu de publicité directe des partis et des candidats dans les journaux, en tout cas beaucoup moins qu'on en a vu par la suite. Mais dans bien des cas, ce n'était pas nécessaire parce que les journaux étaient des organes de propagande. À Montréal, le quotidien La Patrie, qui est un journal libéral, a consacré sa une, sa deux et une partie de sa troisième page, le journal en comptait 8 au total, à l'Assemblée libérale du 24 avril.
C'était presque un pamphlet, finalement.
Mais c'est ça, il ne restait plus de place pour grand-chose. Une fois qu'on avait enlevé la publicité, c'était pas mal l'entièreté de l'information du jour. Mais de son côté, le journal La Presse, qui est un journal conservateur, et ça fait très drôle de s'entendre.
Ah oui?
Ça, absolument, a présenté la nouvelle en page 13, juste avant les sports. Donc, vous voyez le genre de différence qu'on avait dans la couverture, et évidemment, les genres de propos qu'on tenait. Je vous donne un extrait du compte-rendu qu'en a fait La Patrie. C'est une démonstration sans précédent. Jamais l'enthousiasme n'a été aussi vibrant. Jamais le drapeau libéral n'a flotté avec autant d'orgueil aux brises de la métropole. C'est la vengeance des événements. C'est la protestation d'un peuple accablé. C'est le grand coup de clairon sonné par la masse. Et on tenait des propos vitrioliques, souvent franchement diffamatoires dans les journaux, continuellement, et pas dans les pages éditoriales, ni sous la plume d'un chroniqueur, vraiment dans l'information générale. La Patrie, encore, disait de Charles Tupper, donc le chef conservateur, qu'il était coté comme le plus corrompu et le moins scrupuleux de tous nos hommes politiques. Les Canadiens français vont-ils se laisser exploiter par ce vieux farceur et le préférer à un homme intègre et distingué comme M. Laurier? Jamais! Et à l'inverse, dans ses pages éditoriales, La Presse disait espérer que Sir Charles Tupper ne dérogera pas aux grands principes de justice et d'égalité qui ont fait la gloire du Parti conservateur dans le passé et qu'il allait sûrement trouver des hommes de cœur pour lui faire une escorte devant les électeurs et le ramener triomphalement au Capitole. Le jour du vote est arrivé, après cette longue et dure campagne. Évidemment, à ce moment-là, on ne pouvait pas s'asseoir devant la télé ou l'ordinateur et attendre qu'on nous dise si la tendance du vote se maintient, un tel va l'emporter. La plupart des gens apprenaient les résultats dans les journaux du lendemain, mais dans bien des villes, on n'avait pas besoin d'attendre. À Montréal, à Québec, par exemple, plusieurs quotidiens présentaient des soirées électorales où on affichait les résultats au fur et à mesure qu'ils arrivaient par le télégraphe. On montrait même les photos des candidats élus grâce à des lanternes magiques, on présume une sorte de projecteur, après la tombée de la nuit. Ça devait être une attraction en soi, là, à une époque où le cinéma en était vraiment assez balbutiement. J'ai vu aussi à Saint-Jean-sur-Richelieu, par exemple, on annonçait les résultats en direct depuis le balcon d'un hôtel devant des centaines de personnes. Et on semblait être en mesure de donner des résultats passablement complets la journée même du vote. Il y a donc des milliers de Québécois et Québécoises qui sont allés au lit le soir du 23 juin en sachant que le Canada venait d'élire un premier ministre canadien-français. Laurier l'a emporté, il a remporté une majorité électorale, même s'il a perdu le vote populaire par 7 points de pourcentage, ce qui est quand même énorme, et s'amorçait le plus long mandat ininterrompu d'un premier ministre dans l'histoire canadienne. Il est demeuré au pouvoir jusqu'en 1911. Et c'est vraiment impressionnant la vitesse à laquelle on pouvait donner des résultats pratiquement définitif, compte tenu, encore une fois, qu'on était en 1896, et ça fait que les journaux pouvaient être tristes ou jubilatoires dès le lendemain. Et l'électeur, le journal libéral de Québec, titrait dès le 24 juin, Francine, c'est fait, le régime néfaste des 18 dernières années croule sous la vengeance populaire.
J'écoute les mots que vous utilisez là, quand vous lisez les textes et je me dis que finalement, souvent quand on suit des campagnes électorales, on trouve que les médias sont un peu trop, je dirais, sensationnalistes dans ce qu'ils rapportent en prenant toujours des clips où on a des mots là, qui frappent, mais... Disons qu'on est un peu dans la tradition de ce qui a commencé au 19e siècle.
Ah, la division dans la population en temps d'élection, ça date pas d'hier. Je pense que c'est le moins qu'on puisse dire en voyant ça. Il y avait beaucoup de tensions entre les camps et comme je vous disais, le langage aujourd'hui, c'est vraiment rien comparativement au genre de termes dont on s'affublait les uns les autres à cette époque-là. D'ailleurs, il y avait très souvent des poursuites judiciaires et on comprend pourquoi.
C'était le 23 juin, donc c'était la veille de la Saint-Jean. Est-ce qu'il y a eu des manifestations particulières, manifestations dans le sens d'événements, fêtes qui ont été particuliers ou si ben, on a tout simplement souligné qu'on venait de faire un grand, grand pas?
Bien, on nous disait effectivement, j'ai vu dans l'électeur de Québec, qu'on avait combiné la célébration de la Saint-Jean-Baptiste et le grand défilé de la Saint-Jean-Baptiste avec une célébration de la victoire de Wilfrid Laurier et des libéraux pour les gens qui étaient libéraux, évidemment. On présume que les supporters conservateurs faisaient grise mine pour cette Saint-Jean-Baptiste, mais effectivement, ça a été une bonne convergence d'événements là, pour les libéraux canadiens français.
En tout cas, c'est extrêmement intéressant. Alors, la semaine prochaine, on connaîtra les résultats de cette élection-ci. Et bon vote, Marcel, et on se retrouve vendredi prochain.
Merci, à la semaine prochaine.